Tout de suite au téléphone, on est donc avec Jean-Pierre Boucher. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Cécile et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Bartas.
Merci d'être avec nous. Donc, comme annoncé tout à l'heure, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'histoire et l'objectif de cette campagne BDS, boycott des investissements, sanctions ?
Oui, alors l'histoire, elle est très simple. La campagne a été lancée il y a 10 ans et elle a été lancée, pas par nous, mais elle a été lancée par les Palestiniens. Et quand je dis les Palestiniens, c'est intentionnellement que je dis ça parce qu'elle a été lancée par la plus vaste coalition d'organisations de la société civile qui se soit jamais réunie pour un objectif donné. 172 organisations, des organisations des Palestiniens des territoires occupés, des Palestiniens d'Israël, des Palestiniens réfugiés à l'extérieur. Et elle a été lancée en appelant les sociétés civiles des autres pays à soutenir 3 objectifs, à savoir l'application du droit au retour des réfugiés, l'égalité pour les Palestiniens d'Israël, et puis bien sûr la fin de l'occupation et de la colonisation et le démantèlement du mur. Hein. Bon, c'était un appel à agir par des moyens pacifiques, de boycott, de désinvestissement et d'application de sanctions contre Israël. Donc la campagne a exactement 10 ans maintenant.
10 ans, donc, à l'appel de la société civile palestinienne et reprise à la suite dans de nombreux pays de par le monde.
Voilà, alors ça a commencé doucement entre 2005 et 2009, essentiellement dans les pays anglo-saxons. En France, grosso modo, bon, ça a vraiment démarré fort seulement à partir de 2009. Et maintenant, la campagne existe dans 40 pays. Voilà.
Plus de 40 pays. C'est en quelque sorte le même type de campagne que celle qui avait été menée, par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud.
Exactement. En fait, on peut même ajouter que les militants palestiniens qui ont lancé cette campagne l'ont fait directement inspiré et en coordination même avec des militants qui avaient participé à la campagne de boycott de l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid.
Depuis donc ces 10 ans, quelles actions ont été menées et pour quels résultats ?
Alors, bien, les actions qui ont été menées, les Palestiniens, eux, qui suivent le développement, puisqu'ils dirigent en quelque sorte cette campagne au niveau international, ils estiment que la campagne BDS a démarré beaucoup plus fort que n'avait démarré la campagne de boycott contre l'apartheid en Afrique du Sud, beaucoup plus rapidement. Je dirais que ses principaux succès ont été dans le domaine des investissements, en particulier des fonds de pension, des églises dans les pays anglo-saxons qui ont retiré leurs investissements de compagnies et de sociétés israéliennes. Mais à l'heure actuelle, l'aspect boycott est en train de prendre de plus en plus d'importance. Alors, boycott économique, y a des articles dans la presse israélienne qui relate effectivement une baisse des exportations de produits agricoles, un peu dans tous les pays. Le boycott culturel avec de plus en plus d'artistes et de sociétés savantes qui se prononcent pour le BDS, en particulier aux États-Unis. Et boycott universitaire, boycott culturel qui prennent de plus en plus d'importance et auxquels tout le monde peut s'associer.
D'accord. Au niveau français, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes BDS installés ?
Alors, au niveau français, la façon dont les choses sont organisées, c'est que BDS France, dont nous faisons partie ici sur Toulouse, représente à la fois, donc est à la fois soutenu par des organisations nationales à peu près au nombre d'une cinquantaine, donc ça compte des syndicats, des partis politiques et puis des associations nationales comme Je dirais au niveau des partis, je donnerais l'exemple du NPA, au niveau des associations nationales, je donnerais l'exemple d'ATTAC, mais bon, je pourrais en citer bien d'autres, au niveau syndicat solidaire, ou la CNT, et ça, c'est donc, disons, le soutien d'organisations nationales, qui ne sont pas toutes impliquées au même niveau, hein. Bon, ben, certaines le sont très fortement, d'autres sur certains aspects seulement, plutôt que sur d'autres, bon, par exemple au niveau des syndicats. Et puis des comités locaux, et là, le nombre de comités locaux, je crois, est aux alentours de la quarantaine à l'heure actuelle. Voilà.
D'accord. Donc, toi, plus précisément, tu fais partie du groupe de Toulouse, d'un comité local.
Qui s'appelle BDS France Toulouse.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent vos actions militantes? Comment vous vous y prenez pour justement porter cette campagne?
Bon, alors, les actions militantes, bien sûr, ce sont les actions en direction du public, que ce soit dans les supermarchés ou au voisinage des supermarchés, en direction des clients, donc des actions d'explication. Bon, pour expliquer d'abord que la campagne existe, parce que, disons que, à l'heure actuelle, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le BDS. Tout le monde n'en a pas entendu parler, loin de là. Donc on a encore beaucoup de travail d'explication à donner. Des actions en direction, par exemple, d'artistes qui envisagent d'aller se produire en Israël et qui sont de passage à Toulouse, parce que bon, ils font des tournées nationales, des tournées internationales. Donc ça, on intervient directement dans leur vers eux. Et puis on a des projets d'autres types d'actions, comme par exemple l'action contre le jumelage de Toulouse avec Tel Aviv. Hein, il faut savoir que Toulouse est jumelée avec Tel Aviv depuis presque 40 ans maintenant. On a mené aussi à un certain moment, mais bon là, en ce moment ça a un peu diminué, des actions en direction du conseil régional qui siège à Toulouse contre les coopérations ou les risques de coopération militaire avec les compagnies israéliennes. Donc voilà, il y a une assez vaste palette d'actions possibles. Bon, bien entendu, la vulgarisation de l'idée, parce que beaucoup de gens, au départ, pensent que en France, on n'a pas l'habitude de boycotter, que c'est pas une tradition, et que ça va pas mener très très loin. Et on peut leur montrer que, effectivement, cette campagne, parce que ce n'est pas une campagne locale, parce que c'est une campagne internationale, progresse et fait parler d'elle et obtient des succès. Par exemple, pour ne donner qu'un exemple qui remonte à l'année dernière, le fait que la société qui fabrique les gazéificateurs SodaStream, dont l'usine était implantée en Cisjordanie, dans les territoires occupés, a décidé de se délocaliser hors des territoires occupés à la suite de la campagne qui a été menée contre et qui a fait parler d'elle, y compris en France, pas mal. À l'occasion du festival de la bande dessinée où est-ce que c'est déjà
Angoulême.
Angoulême. Ouais. Voilà, Angoulême, où le festival de la bande dessinée en 2014 ayant décidé de prendre SodaStream comme sponsor. Bon, ça ne leur a pas tout à fait réussi et ils n'ont pas renouvelé ça en 2015.
D'accord. Quand vous intervenez comme ça dans des supermarchés pour de la sensibilisation, expliquer, etc., comment vous êtes reçu par les gens, tout simplement les gens qui sont là en train de faire leurs courses, pas forcément informés, pas forcément militants sur la cause ou quoi que ce soit?
Alors bon, c'est très très variable. Ça dépend d'abord des magasins. Je dirais que dans les grandes surfaces où les gens ils sont là pour remplir leur caddie, etc. Et il n'y a pas beaucoup de gens les gens réagissent moins que dans les commerces de proximité, par exemple un Lidl, où il y a les gens du quartier et qui eux ont bien souvent sont plus prêts à réagir. Il nous arrive évidemment de temps à autre de tomber sur des sionistes. Bon. Nous engueulent, ça c'est pareil que sur les marchés, en ville, etc. Bon, mais c'est très minoritaire et par contre on a beaucoup de réactions qui sont des réactions plutôt sympathiques de gens qui spontanément nous soutiennent et apprécient ce qu'on fait.
Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu mets derrière ce terme de sioniste ?
Les sionistes, c'est une bonne question que tu poses. Les sionistes sont des gens qui soutiennent le type d'État qui a été constitué en Israël.
Donc cet État qu'on connaît aujourd'hui pour être un État qui pratique l'apartheid.
Alors,
et la colonisation.
Bon, c'est un État qui pratique l'apartheid, mais il pratique plus que ça. C'est en ce sens que la situation pour Israël, on peut la qualifier, enfin c'est pas moi qui le dis, ce sont les Sud-Africains qui le disent eux-mêmes, que la situation, à beaucoup d'égards, la situation en Israël-Palestine est pire que eux, ce qu'eux ont connu. Parce que en Afrique du Sud, ils n'ont pas connu des bombardements avec des destructions de morceaux de villes entiers comme il y a eu à Gaza récemment. Ils n'ont pas connu des opérations de nettoyage ethnique de grande ampleur comme il en existe dans les territoires occupés. Donc nous disons apartheid plus colonisation. Une colonisation de peuplement donc, qui vise à viser les gens de leur terre complètement, donc à les concentrer dans des zones de plus en plus petites de la Palestine, et puis une colonisation et nettoyage ethnique. Voilà. Donc ce sont des justifications supplémentaires, bien sûr, de la campagne que nous menons.
Alors, dans le cadre de cette campagne et pour ton engagement au sein de BDS, tu vas passer en procès avec d'autres compagnons. Vous êtes quatre sur Toulouse ?
Nous sommes quatre sur Toulouse, oui.
Et le procès est prévu pour ce mercredi ?
Alors, le procès est prévu pour ce mercredi. Je peux déjà t'annoncer que nous savons que le procès sera reporté pour des raisons strictement techniques. Hein, donc, il sera reporté. On ne sait pas de combien de temps, mais 2 ou 3 mois. Bon, c'est assez coutumier, ce genre de choses, que des procès sont reportés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la cause elle-même, mais des raisons techniques, je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Mais donc nous sommes poursuivis et évidemment nous serons jugés. Hein. Si ce n'est pas mercredi, ce sera un peu plus tard.
Je te propose, Jean-Pierre, avant qu'on en vienne dans le détail de pourquoi cette condamnation et que faire, qu'on s'écoute une chanson de Shadia Mansour, elle aussi palestinienne, elle aussi qui fait du hip-hop, et cette fois le titre s'appelle El Kefi. On se retrouve juste après, hein, ne quitte pas.
À tout de suite.
À tout de suite.
صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم ما خصن فيه قلدوناه بلبس لبس من هالأرض بكفيهن طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا ببشر قبل ما بتلبسوا كوفي جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لاننا وطنيه الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسيه الكوفي كوفي عربي يلا علم كوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بتضل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني اي امي بالدنيا اكتر مؤثرة الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما انا هجاه ديك العرب الثاني بخص غزب الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل انا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لكن اتربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علم في عربية بدنا العربية
A fashion statement, disgustingly I spit on the pavement. It's basic, y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag, the keffiyeh ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance, no coincidence that you can see the RBG in it. Cable beneath the bandana, ain't it beautiful? I say it in Spanish, it's solidarity, the feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep the Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air, let me know what side you on. Uhuru, yeah. The keffiyeh is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Dude, from the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah, bang for my flag.
Voilà, c'était donc Shadia Mansour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bartas sur le 107 et nous sommes toujours avec Jean-Pierre Boucher au téléphone. Donc Jean-Pierre, au cas où des personnes nous rejoindraient en cours de route, je rappelle que tu es un militant de cette campagne d'action non violente contre la politique de l'État d'Israël, politique de colonisation et d'apartheid, une campagne donc à base de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Dans ce cadre-là, de cet engagement militant, tu es convoqué au tribunal correctionnel de Toulouse. Quel est exactement le motif de cette convocation ?
Alors, le motif, il est d'avoir distribué un tract, donc appelant au boycott des produits israéliens et appelant à la fin de la coopération entre la compagnie Orange et une société israélienne qui s'appelle Partner Communication. Je dois dire que par rapport à ce point-ci, la campagne a été un succès puisqu'il est prévu que Orange cesse effectivement sa collaboration d'ici à peu près un an. Donc d'avoir distribué des tracts donc appelant donc à ce boycott des entreprises israéliennes et donc à la fin de ce partenariat dans l'espace public, il n'y a pas eu d'entrée dans les magasins et
dans la
voilà
rue.
Rien que ceci, oui dans la rue exactement, enfin dans la rue à une sortie de métro, bon c'était rien d'autre que cela. Alors ceci est qualifié dans le texte qui sert à nous poursuivre, d'entrave à l'exercice normal d'une activité économique.
Donc voilà. C'est les magasins où c'est Orange, c'est
pas du tout.
Qui porte plainte ?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La police, évidemment, s'est rendue dans ces magasins pour leur demander si ils se souvenaient de notre présence à proximité et s'ils portaient plainte. Aucun d'entre eux n'a porté plainte et aucun ne désirait le faire. Non, tout est venu d'un dossier qui a été monté par deux associations, une que peut-être vos auditeurs connaissent, qui s'appelle la LICRA, qu'on a connue mieux inspirée dans le passé lorsqu'elle poursuivait des antisémites, mais qui depuis quelques années se tourne de plus en plus vers la poursuite des militants qui soutiennent la cause palestinienne. Bon. L'autre qui est une petite officine parisienne qui s'appelle BNVCA. Donc ils ont constitué un dossier, ils l'ont porté au procureur en demandant au procureur de poursuivre les personnes personnes qu'ils avaient identifiées d'après des photos, voilà.
Ça paraît assez illogique puisque eux ne sont concernés en rien par cette entrave à l'exercice normal d'une activité économique.
Mais bon, ils sont... oui, mais bon, ils s'appuient sur le fait qu'il existe un texte de loi et même si eux ne sont pas directement concernés, ils considèrent que ce texte de loi est applicable dans notre cas. Voilà. Et ils ont... C'est pas la, pratiquement dans tous les procès qui ont été faits vis-à-vis de militants de la campagne BDS, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul cas sur 10 procès où un magasin a porté plainte.
Un seul cas sur 10 procès. Ça veut dire que depuis 10 ans que cette campagne existe en France, il y a déjà eu 10 procès pour
c'est
des faits similaires.
Près ça, oui, il y en a eu une première vague de 8 procès, si je ne me trompe pas, 7 ou 8, 8 je crois. Et là, maintenant, il y a une nouvelle vague avec 2 procès, un à Montpellier et un à Toulouse. Et on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres. Bon, tout ceci vient du fait qu'Israël a réalisé que la campagne BDS représentait un problème, à tel point que le président d'Israël a même qualifié la campagne BDS de menace stratégique, ce qui est assez extraordinaire. Et depuis l'an dernier, les consignes sont données à toutes les associations pro-israéliennes dans le monde de chercher par tous les moyens de bloquer la campagne BDS. Et bon, le moyen de par des poursuites judiciaires est un moyen habituel en France.
Un autre moyen très important, et c'est là où c'est intéressant de voir que la LICRA peut se permettre de porter plainte dans ce genre de situation, c'est l'amalgame systématique entre antisionisme et antisémitisme. Puisque la LICRA, on le rappelle, logiquement, c'est la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme.
Tout à fait, tout à fait. Bon, ça, c'est le discours... C'est le discours sioniste classique qui habituel qui consiste à considérer que nous nous disons antisionistes, mais en réalité nous ne sommes pas antisionistes, nous sommes antisémites. Bon, alors il suffit simplement de rappeler à tout le monde que premièrement il est absolument impossible de trouver ni dans nos écrits ni dans nos actions quelque acte antisémite que ce soit. Et d'autre part, que nous comptons parmi nos militants de nombreux militants juifs, en particulier les militants de l'Union juive française pour la paix, qui sont complètement impliqués dans cette campagne. Et cette situation n'est pas propre à la France. Hein, aux États-Unis, je dirais que la campagne BDS aux États-Unis est très très largement menée par de grandes associations juives, comme Jewish Voice for Peace ou les vétérans juifs pour la paix ou des choses comme ça, qui sont extrêmement actifs dans cette campagne. Donc on sait depuis toujours que le sionisme est un mouvement, enfin disons est une position, un mouvement politique. On se bat contre ce mouvement politique, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme bien évidemment.
Donc, si on reprend les faits, ce sont des distributions de tracts. L'accusation, c'est une entrave à une activité économique non reconnue par les premiers intéressés. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir affaire à un procès politique ?
Bien évidemment. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Il s'agit d'un procès politique et de rien d'autre qu'un procès politique. Parce que le débouché, si jamais le juge estime que nous avons entravé une activité économique par le simple fait d'avoir distribué des tracts, ça débouche sur le deuxième verset sur la deuxième facette de cette loi qui est appliquée, à savoir le fait de nous accuser de discrimination contre une nation. Et bien évidemment, quand on fait ce genre d'accusation, c'est une accusation de type politique, qui est assez rigolote parce que finalement, bon, c'est assez étrange de parler de discrimination contre une nation dans le cas d'Israël, puisqu'Israël est tout sauf une nation.
Explique-nous, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Ce n'est pas une nation. À partir du moment où on se trouve dans un système de pouvoir dans lequel la moitié de la population qui parle une langue, qui a une histoire complètement différente, qui opprime l'autre moitié de la population, qui, elle, est la population qui a été chassée d'une bonne partie de son territoire, comment est-ce qu'on peut parler d'une nation à propos d'Israël ? Une nation, ça demande quand même d'avoir au minimum un minimum de choses en commun. Mm-hmm. Donc, ou bien on dit que Israël se réduit à sa population juive, mais ça, même les Israéliens ne seraient pas d'accord avec ça. Ou bien, évidemment, c'est tout ce qu'on veut, mais pas une nation. De la même, pareil en Afrique du Sud, on a pu commencer à parler de nation en Afrique du Sud que après la fin de l'apartheid, quand on a parlé de la nation arc-en-ciel. Avant la fin de l'apartheid, on parlait de nations africanaires, on parlait de nations zoulous, on parlait de choses dans ce genre-là. On ne pouvait pas parler de nations sud-africaines.
Mmh. Une dizaine de procès donc, ont déjà eu lieu. Quelle a été jusque-là l'attitude de la justice française ?
Alors, elle a été variable suivant les juridictions. On peut dire grosso modo moitié-moitié entre relax et condamnation. Donc il y a eu des cas de relax confirmés en appel et puis ce n'est pas allé plus loin. Il y a eu des condamnations. En fait, au niveau des instances, au plus haut niveau, puisque ça va jusqu'en cassation, là aussi c'est un peu moitié-moitié. La cour d'appel de Paris, qui est quand même une cour d'appel qui pèse, a complètement justifié le fait de mener cette campagne au nom de la liberté d'expression et du fait qu'il s'agissait d'un droit légitime d'expression politique. Par contre, la cour de cassation, dans un cas récent, c'est-à-dire celui des militants de Mulhouse, a confirmé le jugement d'appel qui était contre les militants, en reprenant l'argumentation dont je viens de parler, c'est-à-dire du fait en estimant que bon, il s'agissait d'une discrimination contre une nation. Donc on est à peu près à une situation à l'heure actuelle moitié-moitié. C'est grosso modo l'avis de la Cour de cassation, c'est vous n'avez pas le droit d'appeler au boycott. Bon, très bien, alors qu'est-ce qu'on fera ? Ben, on dira tout simplement que l'on boycotte, ce que l'on a parfaitement le droit de faire et que personne ne peut nous empêcher de faire, et on expliquera pourquoi on boycotte, et on n'appellera pas les autres personnes à le faire, ils en tireront les conclusions. Les gens ne sont pas complètement idiots, ils tireront leurs conclusions eux-mêmes. Voilà.
Comment vous soutenir par rapport à ce procès qui arrive ? Est-ce que vous avez lancé un appel à soutien ?
Oui, bien sûr. On a constitué un comité de soutien qui a été à peu près aussi large qu'il est possible de le constituer dans le contexte politique actuel. C'est-à-dire que, bien évidemment, ni les partis de droite ni le Parti socialiste n'en font partie. Mais par contre, ça a été à peu près carton plein au niveau des organisations soutiennent réellement la cause palestinienne. On a lancé une pétition qu'il est possible de trouver en ligne. Alors je n'ai pas le nom exact de la pétition, c'est Bernard, Jean-Pierre, Loïc et Yaman doivent être relaxés. Bon, on trouve ça facilement sur internet et bien entendu, j'invite les auditeurs de Radio Bartas à la signer en ligne. Et on a constitué aussi évidemment un fonds de soutien pour couvrir les frais de justice, parce que quelle que soit l'issue de ces poursuites, elles coûtent cher, parce qu'on sait que de toute façon ça ira en appel au minimum, donc voilà.
On sait que ça fait aussi partie de la stratégie d'essouffler des mouvements militants avec ce genre de procès et les frais qui vont avec, et de les
concentrer sur leur défense au lieu de mener des actions. Mais c'est de leur part, c'est quand même un outil à double tranchant, parce que depuis que nous sommes poursuivis, donc ça remonte à juillet, la constitution du comité de soutien remonte à tout début septembre, depuis que nous sommes poursuivis, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la campagne BDS ont appris ce que c'était. Et beaucoup de personnes se sont rapprochées de la campagne depuis 3 mois. Donc, voilà.
Eh bien, Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu tout ça. Bon courage pour la suite. Donc, mercredi, on a compris que ça ne serait pas si important que ça. Mais tiens-nous...
On appelle les gens à venir, mais pas à venir de loin. Voilà,
tiens-nous au courant, en tout cas, pour les prochains événements.
Voilà, je te remercie, Cécile.
Merci beaucoup.